Bonjour à vous et bienvenue déjà dans ce 60e épisode de Up to Eleven. Ensemble, comme à notre habitude, nous allons nous pencher sur un artiste, un groupe, par le biais d'un seul et unique album. Mais comme vous le savez, tous les numéros en dizaines, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, eh bien c'est une thématique spéciale. Je me fais un tout petit peu plaisir, pourrait-on dire que c'est presque un Up to Eleven mood, peut-être quelque part. Mais en tout cas, j'aime bien vous faire découvrir d'autres choses. Alors au départ, je voulais un petit peu continuer cette thématique que j'avais déjà utilisée à l'épisode 50, voilà donc, qui était les versions démo. Je voulais aller sur quelque chose d'un tout petit peu différent, mais je me suis dit non, finalement, on va attendre un tout petit peu, on va essayer de pas faire trop les choses qui se ressemblent. Cette fois-ci, je suis parti sur quelque chose qu'on avait déjà abordé il y a quelques épisodes dans un spécial, encore une fois. Mais cette fois-ci, nous allons aborder le sujet sous un angle un tout petit peu différent. Je vous laisse découvrir le sujet tout de suite après. Nous venons d'écouter une réécriture d'un morceau, ma foi, assez connu de la franchise Donkey Kong Country, c'était Gangplank Galleon. Le morceau a été écrit à l'origine par David Wise, c'était le seul compositeur attitré pendant de nombreuses années pour la société Rareware. C'était d'ailleurs pour ce Donkey Kong Country 1 la première fois qu'il travaillait à plusieurs, en effet il était secondé de Robin Dimland et de Evelyn Fisher. Pour le second jeu par contre, il aura écrit tout en intégralité seul, donc à savoir Donkey Kong Country 2 Diddy Kong Quest, qui est vraiment un excellent jeu, je pense que c'est l'un des meilleurs platformers qui m'a été donné de jouer, je pense que c'est l'un des meilleurs platformers tout court, si vraiment vous êtes fan de plateforme, allez-y, franchement c'est un excellent jeu, par contre il est aussi excessivement difficile, mais quand même assez juste, hein. Il y a quand même de la fils de puterie, j'ai envie de dire, mais c'est quand même, il y a une certaine forme de logique dans ce jeu, c'est-à-dire qu'on te prend pas trop en traître, c'est dur, mais voilà, c'est gratifiant, ça se mérite, comme on dit. Et là, par contre, il a été tout seul, mais c'est vrai que ce Donkey Kong Country 2 est, à mon humble avis, déjà en termes de jouabilité, bien meilleur, il est bien meilleur sur même en termes de graphisme, en termes de présentation, il va beaucoup plus loin que la claque qui était Donkey Kong Country 1, qui à l'époque, quand il était sorti, peut-être que certains ne s'en rappellent pas, mais ils avaient utilisé ces fameuses stations Silicon Graphics pour justement, modéliser les personnages, pour modéliser les personnages en 3D et puis après faire une ressortie forcément 2D parce que, pour ceux qui ne le savent pas, ces jeux sont sortis sur Super Nintendo, d'ailleurs le premier sorti d'ailleurs en 94, je ne l'ai pas dit. Et c'est vrai qu'à l'époque ça avait été un petit peu la grosse claque, surtout que bon, on commençait à nous annoncer des PlayStation, un petit peu tout ça, c'était encore un petit peu entre deux ans, on se doutait bien qu'il allait y avoir d'autres choses, on avait la Saturn, tout ça. Mais là voilà, c'était quand même, pour la 2D, c'était quand même une très grosse claque. Le jeu est très bien fait d'ailleurs, le 1, mais c'est vrai que moi je vous invite plus particulièrement à vous pencher sur le 2, tout en sachant que les musiques du 2 sont tout bonnement exceptionnelles, il y a des grands morceaux de bravoure dans cette OST de Donkey Kong Country 2, et c'est pour ça vraiment que je vous invite. Et je vous invite aussi à vous pencher sur la carrière de David Wise, qui a, il a quitté Rare en 2008, il a été pendant presque 25 ans, tout de même, mais il a été repris, donc c'est par Retro Studios, ceux qui ont repris la licence Donkey Kong Country, et il est revenu en 2014 sur Donkey Kong Country Tropical Freeze. Par contre, ce que nous venons d'écouter, ce n'est pas le morceau original, c'est une réorchestration, une réadaptation, j'ai envie de dire, pour le jeu Super Smash Bros. Ultimate ou Super Smash Bros. Special au Japon. Et on doit cette recomposition, cette réorchestration, en fait, un duo qui des fois est un trio. C'est un peu compliqué comme ça, mais en fait, le duo est composé à la base de Tomori Kudo et Hiroyo Yamanaka, qui se font connaître d'ailleurs sur le surnom de Hayes. Et pour dire que pour Yamanaka, elle a aussi un autre petit surnom, de croire que les Japonais adorent les petits surnoms, elle, c'est Shiko, mais pas avec les Gypsies. Et après, de temps en temps, un autre compositeur arrive avec eux, c'est Kenji Hiramatsu. En tout cas, comme composition majeure qu'on peut noter pour eux, ils se sont intéressés à des jeux quand même qui ont eu un certain succès, c'est Xenoblade Chronicles 1 et Xenoblade Chronicles 2. Maintenant, il est temps de passer à notre jeu suivant, donc une OST suivante, elle aussi. Ce sera toujours un platformer, un jeu de plateforme. Cette fois-ci, ce sera un jeu, je pense, un petit peu plus connu que probablement plus de gens ont eu entre les mains, mais je vous laisse découvrir de quel jeu je parle tout de suite après. Thank you. Nous venons d'écouter Dire Dire Dogs. Alors, nous avons plusieurs versions qui se sont suivies en fait. Nous avons Dire Dire Dogs traditionnel, c'est quand on est sur la terre ferme. Nous avons la version aquatique. Et puis nous avons la version quand nous sommes dans la cave qui se cache sous l'eau dans ce magnifique jeu qu'est Super Mario 64, sorti en 1996. Alors tout ceci a été composé de main de maître par l'un des plus grands compositeurs de jeux vidéo vraiment de tous les temps. Il est mythique parce qu'il a fait la musique de The Legend of Zelda, il a fait la musique aussi de Super Mario, que nous venons d'écouter. Et c'est vrai que rien que pour ça déjà, c'est balèze. Mais voilà, on peut aussi lui donner d'autres, comment ça s'appelle, compositions que je vais vous citer juste après. Vous allez voir que son travail est juste monumental parce qu'en plus d'avoir fait tous les Mario Bros, grosso modo, il a fait Mario Bros 1, Mario Bros 2, The Lost Level, c'est la version, le vrai Super Mario Bros 2, c'est celui-là en fait, parce que l'autre c'est Super Mario Bros 2, mais c'est la version USA, ça, en fait c'est un retapage de plein de globibulium, enfin bref, c'est un peu compliqué, mais bon, pâchez-vous-y dessus. Si vous voulez. D'ailleurs, c'est même lui qui avait fait, en fait, si vous voulez, ce Super Mario Bros. 2, allez, je vais vous l'expliquer, parce qu'en fait, c'est lui aussi qui a fait la composition, c'est Doki Doki Panic. En fait, c'est un jeu qui était trop japonais, et du coup, pour son arrivée sur le sol occidental, en fait, ils ont mariotisé, on va dire, les personnages pour que ça se fasse bien. Donc, en fait, on se retrouve avec deux Mario 2. Et après, il y a l'extraordinaire Super Mario Bros. 3 aussi, qui est juste exceptionnel. Il a fait aussi Super Mario World, il a fait The Legend of Zelda A Link to the Past. Il a fait un jeu qui est malheureusement un peu, tout petit peu méconnu, parce que quand on n'est pas vraiment spécialisé dans le jeu vidéo, c'est vrai qu'on ne le connaît pas trop, c'est Star Fox. Et il a fait aussi Star Fox 64, qui a une OST de fou pour un jeu de shoot. Ça, c'est impressionnant. Cette OST, chaque fois que je réécoute, je me dis, mais c'est vraiment du génie, il y a du gimmick, il y a plein de choses dedans. Ça, c'est vrai que pour ça, les compositions de Kodo Konji sont vraiment superbes. Il a fait aussi, par exemple, allez encore une fois, The Legend of Zelda Ocarina of Time, l'un des meilleurs Zelda, enfin, on peut pas faire, je crois qu'on peut pas faire plus. Et à partir de là, il commence un peu plus à travailler à deux connaisseurs pour justement un petit peu déléguer, et peut-être pour passer à autre chose aussi, parce que chez Nintendo aussi, on a toujours à cœur de vouloir diffuser son savoir-faire, et c'est pour ça qu'au fur et à mesure aussi, à partir de Majora's Mask, par exemple, pour Zelda, ou The Wind Waker, ou pour celui juste après, The Wind Waker, il commencera un petit peu à déléguer pour aller... Parce que son vrai dernier Zelda où il participe, en fait, c'est The Legend of Zelda Twilight Princess, sachant qu'en fait, il ne compose que le prologue de The Legend of Zelda Skyward Sword. Et pareil pour les Mario, après, il délègue un petit peu pour justement participer à l'esprit Nintendo, même si son dernier acte majeur, dirons-nous, sur Super Mario, c'est l'extraordinaire BO de Super Mario Galaxy 1 et 2, qui est juste exceptionnel, elle aussi. Alors pour moi, la Nintendo 64 est une console qui représente beaucoup. C'est la console que j'ai eue à mes 7 ou 8 ans, si je me rappelle plus. Bon, je sais pas, c'est plus très précis, mais je me rappelle l'avoir attendu très longtemps, cette console, parce que ça vraiment, elle me faisait rêver. Et j'avais la NES avant, et d'être passé là-dessus, c'était ma vraie console. On l'avait acheté vraiment pour moi, c'était vraiment, tout était là pour moi. Et il y avait des jeux exceptionnels dessus, comme je vous l'ai dit. Là, je vous ai cité le tout premier jeu que j'ai eu dessus, c'est Super Mario 64. Après, j'ai eu Star Fox 64, j'ai eu Banjo-Kazooie. J'ai eu énormément de jeux là-dessus, je me suis vraiment régalé, j'ai eu Perfect Dark aussi, ce fameux jeu méconnu de Rare aussi, qui est un peu le descendant spirituel, de la suite spirituelle de, comment ça s'appelle, de GoldenEye 007, qui est, ce jeu avait des trucs fous à l'époque, c'est-à-dire il y avait genre un sniper alien, où tu pouvais tirer à travers les murs en détectant les mecs avec, comment ça s'appelle, la détection thermique, t'avais des espèces de tranquillisants où tu pouvais du coup shooter les mecs, et quand t'étais shooté, après toi tu voyais plus rien. Mais il n'y avait que les coréens, ça. Et il y avait des bots aussi qui étaient bien pervers. Tu pouvais leur donner des ordres et tout. Je trouve que pour l'époque, pour un jeu de Nintendo 64, c'était vraiment un tour de force. C'était vraiment un jeu exceptionnel. Et c'est vrai que cette console, voilà, j'en ai toujours eu un gros affect avec. Après, c'est vrai que bon, maintenant, quand je rejoue à certains jeux, c'est un peu pénible. Je suis arrivé à refinir Banjo-Kazooie. Parce que voilà, je reprends certains jeux pour les finir. Parce qu'à l'époque, je ne les avais pas finis. Et je dois vous dire que des fois la maniabilité c'est légèrement ou très très haut ou que très légèrement flottant. Des fois c'est vrai que ça, par rapport à des jeux 2D, on sent vraiment qu'à l'époque on défrichait beaucoup. C'est sûr que quand on se met maintenant sur un Super Mario Odyssey, on voit le chemin qui a été parcouru pour en arriver là. Parce que c'est vrai que, encore, quand je vous parle de ces jeux-là, comment ça s'appelle, on n'a pas le syndrome qu'avaient les jeux de PlayStation 1 aussi, à l'époque où il n'y avait pas la manette DualShock. Donc, c'est-à-dire qu'on dirigeait tout à la croix directionnelle, mais dans des environnements 3D. Donc en fait, on était toujours un petit peu obligé de s'arrêter. Moi, je sais que je suis en train de finir Spyro 1, et c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment une pas une catastrophe, mais on sent que ça fait vieille école, quoi. C'est qu'on est toujours obligé de s'arrêter pour tourner, on peut pas avancer et tourner en même temps, quoi. C'est trop bizarre, quoi. Sauf si vraiment on est vraiment lancé, mais alors du coup on fait des courbes de l'espace, on est fait vraiment... Et c'est vrai que du coup le 64 pour ça c'était quand même un petit peu plus agréable, même si des fois le stick analogique de le 64 était quand même un peu merlique. C'était pas joli, c'est-à-dire que vaut mieux une bonne manette de GameCube, et c'est pour ça que les jeux d'après n'ont été que bien meilleurs, comme le fameux Super Mario Sunshine, qui est exceptionnel, mais qui est d'une... Je crois que c'est le Mario le plus compliqué, quoi. Enfin, je me suis tordu. Et c'est vrai que là aussi, pour ce Super Mario Sunshine, notre ami Koji Kondo était allé aussi hyper loin dans l'OST, par tous les Mario, quasiment une OST de dingue. Et c'est vrai que celui-là, ça pense particulièrement. Alors maintenant, il est venu temps de changer de style de jeu, et je vais vous laisser découvrir ça tout de suite après. Nous venons d'écouter Corridor of Time, cet extrait de la bande-son de Chrono Trigger sorti en 1995 sur Super Nintendo, et c'était une composition de Yasunori Mitsuda. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Chrono Trigger, c'est un excellent, je dirais même un très très excellent jeu japonais, donc c'est un JRPG, et c'est vraiment un peu c'était le pinacle. Alors je sais qu'en 95 j'étais un tout petit peu petit, je l'ai découvert bien plus tard sur le tard, particulièrement avec sa réédition que j'ai attendue comme le Messi sur Nintendo DS. C'est même ça qui m'a refait acheter une DS. J'ai acheté la Nintendo DS, la DSi. Je l'ai acheté exprès pour ce jeu parce que je savais que c'était vraiment le monument du jeu vidéo. Et ce monument du jeu vidéo, déjà en fait, il est déjà en tant que joueur sur le print. On prend le produit en tant que tel, j'allais dire, si on prend la finalité, ce qu'on a déjà sous les yeux, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment l'un des meilleurs jeux de tous les temps, véritablement. Moi, je vous recommande très chaudement de vous y pencher, l'histoire est vraiment superbe, Les compositions musicales, ce que nous venons d'écouter, c'est exceptionnel. Le pire, c'est que c'était son tout premier, sa toute première commande comme compositeur, ce qui est assez fou parce que c'est vraiment, je sais même pas comment c'est possible d'avoir sorti ça comme ça, mais bon, bref. Et en fait, ce jeu, il y a aussi une histoire autour, parce qu'à l'époque, on avait une fameuse dualité qui n'existe plus, si vous êtes bien plus jeune que moi. Si je vous parle d'une société qui est Square Enix, bah c'est Square Enix, tout simplement pour vous. Sauf qu'à une certaine époque, on avait Square et on avait Enix, avec la fameuse rivalité d'ailleurs qui était Final Fantasy ou Dragon Quest. Donc, c'était pour Square, c'était Final Fantasy, et pour Enix, c'était donc Dragon Quest. Et à l'époque, c'était la grande bagarre. Et en fait, si vous voulez, ce jeu, alors c'était bien avant, encore quelques années avant la fusion entre les deux sociétés. Donc c'est un petit peu, voilà, c'était un petit peu pour certains un peu le mât où ça a un petit peu baissé après, parce que voilà, c'était un peu, c'était la fâcherie, hein, c'était les frères ennemis. Hein, donc je pense que certains sont encore fâchés peut-être, mais bon bref, on a ce qu'on a. Hein. Et si vous voulez, à l'époque, c'était déjà une première tentative de réunion. Alors c'était, alors, c'est pour ça, c'est, quand on voit déjà par qui c'est fait, mais c'est assez fou quoi. C'est-à-dire qu'on est allé chercher Yuji Horii, le créateur de Dragon Quest, on allait chercher du coup le créateur de Final Fantasy pour faire notre Chrono Trigger, donc Hironobu Sakaguchi, et on a aussi appelé pour faire le design Akira Toriyama, donc le créateur de Dragon Ball et Dr. Slump. Rien que ça, qui travaille d'ailleurs, qui est aussi le caractère designer sur la série Dragon Quest. Et des fois, même si des fois, on veut cumuler les talents, des fois on n'arrive pas à quelque chose de rassurant au final, à quelque chose d'un produit qui pourrait en faire espérer tant. Ben là, ça dépasse même les attentes. D'ailleurs, c'est comme je trouve ça quand même assez exceptionnel au final, parce que c'était ce jeu, non, avait tout pour capoter presque, hein, parce que c'est quand on met les, comment ça s'appelle, des fois les synergies avec des gens qui sont pas forcément, c'est une certaine forme de rivalité, j'ai envie de dire. On aurait pu arriver sur quelque chose de pas terrible, ou peut-être au final, on est arrivé sur quelque chose d'exceptionnel. Voilà, comme ça, tranquillou. Et donc notre jeune Yasunori Mitsuda. Eh bien, pour vous dire, il s'est tellement creux à la tâche, mais pour de vrai, ça veut pas dire qu'il est mort, hein. Il s'est fait un ulcère à l'estomac pendant le développement du jeu. On en est quand même arrivé là. Et il a été, quand même, on va dire, un petit peu aidé. Il a eu quelqu'un, on a pris quelqu'un, bien évidemment, pour prendre la relève quelques temps. Et c'est juste le compositeur de Final Fantasy qui est venu un petit peu mettre sa pierre à l'édifice. C'est Nobuo Uematsu. Et c'est vraiment, je pense que ça finit d'achever cette OST, parce que c'est exceptionnel. Bon, c'est vrai que le jeu, déjà sans cette OST, c'est vrai qu'il perdrait beaucoup de sa saveur quand même, hein, parce que même si le scénario est vraiment bien fait, le gameplay est vraiment aux petits oignons, c'est joli, c'est vraiment, il n'y a pas trop de bugs, c'est vraiment un jeu hyper bien réussi. Mais c'est vrai que l'OST, elle vient un petit peu sublimer... c'est comme un très bon lacage sur un beau gâteau, si vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Ça ramène du goût et ça met aussi le produit en valeur, quoi. Et c'est vraiment assez exceptionnel. On est vraiment tombé sur quelque chose de très costaud. C'est vraiment, moi franchement, je vous recommande très chaudement ce jeu. Par contre, donc notre compositeur a continué à travailler dans le jeu vidéo jusqu'en 2018 pour l'instant. Je sais pas si probablement il doit être sur quelque chose en ce moment. Mais il a travaillé par exemple sur la série Front Mission, il a travaillé sur la série Tobal, il a travaillé sur Xenogears, parce qu'il faut en revenir après en fait. Vous allez voir, ça fait le lien. Du coup, il a aussi travaillé sur Xenoblade. Alors, il a travaillé sur le Chronicle 1 et le Chronicle 2. Il a aussi travaillé, ça fait le lien aussi, encore une fois, avec le premier jeu, cette fois-ci, sur Kid Icarus Uprising, parce que c'est un jeu qui a été chapeauté par Masahiro Sakurai, qui est aussi responsable de la série Super Smash Bros. Dans son entièreté. Je vous parle bien du tout premier sur 64, le Melee, le Brawl, le Fort Wii U et Fort 3DS, et bien évidemment le tout dernier, le Ultimate. Et c'est même lui maintenant qui fait la présentation du jeu pour vous dire comment on en est arrivé à un tel point. Finalement, je ne sais pas pourquoi, en partant sur cette émission, j'ai fait un petit peu un choix pas aléatoire de jeu. Hein. Je savais à peu près de quoi je voulais parler, bon, je pense qu'on reviendra sur un certain Koji Kondo dans une autre émission, parce qu'il y a beaucoup à en dire, mais j'ai très envie de reparler de Mario 64, et de Star Fox 64, pardon. Mais il y a toujours, je sais pas, il y a un lien, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose, où on trouve toujours manière à en dire, et c'est ça qui est cool, ouais, finalement. C'est toujours cet effet de vouloir partager quelque chose, et finalement on partage quelque chose de même un petit peu plus grand, parce que tous ces jeux que je vous cite, pour l'instant, c'est vraiment des jeux, moi, qui ont été vraiment fondateurs de ma culture vidéoludique, tout simplement. Mario 64, pour moi, c'est vraiment une sorte de pinacle. La série des Super Smash Bros, je trouve toujours quelque chose à en redire, mais à chaque fois qu'il y en a un qui sort, ben je m'y penche corps et âme. Et comme nous venons de l'écouter, la Chrono Trigger, pour moi, ça a été vraiment ce jeu, ça a été une sorte de pinacle. C'est vrai que des fois, j'ai toujours de la réticence à me lancer dans les jeux de rôle, surtout japonais, hein, parce que tu comprends bien, ça, c'est souvent des jeux très chronophages, comme les Xenoblade, mon dieu, avec des quêtes où il faut aller chercher des trucs à droite, à gauche, mon dieu, quelle horreur. Et c'est vrai que des fois, t'es un peu, voilà quoi, hein. Et c'est vrai que là, bah, je sais pas, il y avait quelque chose d'heureux, c'était quand même l'histoire prenait un petit peu plus le pas, je trouve, que par rapport à va faire ceci, va faire cela. Et rien qu'en cela, ça prouve bien que c'est un excellent jeu. Et d'ailleurs, il va être venu l'heure de nous quitter, hein, parce que tu comprends bien, on était déjà à la troisième chanson tout de même. Hein. Donc on va passer à la quatrième. Donc c'était toujours @Gandalf80, donc Gandalf81, oh yeah, qui vous remercie une nouvelle fois pour son écoute. Je ne sais pas pourquoi il prend un accent avec des oh yeah. Ça lui fait plaisir un petit peu de parler de jeux vidéo, ça change un peu, ça fait voir autre chose, tout simplement. Et en plus, c'est bien fait, donc on va pas s'en plaindre. Et alors le prochain numéro, ça sera un Up to 11 traditionnel de chez traditionnel. Une fois par mois, tu as Up to 11 le mood, ça c'est le tous les 11 du mois. Bah, je pense que maintenant tu connais la rengaine, et si tu la connais pas, eh ben, tu peux t'abonner aussi au flux RSS, et puis tu verras bien, quand ça débarque dans ta petite, sur ton petit téléphone ou sur ton petit ordinateur, tu auras de quoi te sustenter. Alors il est venu temps pour nous d'écouter le tout dernier morceau de cette émission, ce sera encore une fois un JRPG tout félin dans cette émission à croire, et ce sera un JRPG beaucoup moins connu, qui a moins de postérité que notre ami Chrono Trigger, et c'est Grandia. Alors moi j'ai particulièrement joué au 2, le 1 je dois m'y mettre parce qu'il a quand même eu un fort retentissement, pour vous dire, même l'OST du 1 ressort même encore en vinyle, pour vous dire quand même qu'elle est restée plutôt bien. C'est vrai que l'OST du 2 est un petit peu moins, je pense pas qu'elle soit aussi bien, mais je m'étais bien régalé sur ce Grandia 2. À l'époque je l'avais joué sur mon tout premier vrai ordinateur, hein, parce que... tu comprends, à l'époque, moi j'étais pas né à l'époque, on pouvait s'acheter un IBM, PC, tout ça, patin, couffin. Moi c'était mon tout premier PC, je l'ai eu peut-être là en 2000 ou 2001, à l'époque où c'était exceptionnel. C'était à l'époque, le Pentium 4 venait de sortir, pour vous dire, mes chers amis, moi j'étais encore sur un Pentium 3. Je me rappelle encore de ce Pentium 3 avec le fameux passage à Windows XP qui a bien. Moi j'étais sous Windows Millennium, c'était à croire que c'était la compilation des meilleurs bugs de 95 et 98, c'était tellement laid quoi. Son ordi plantait tout le temps, le passage à XP a été formidable, mais un jour est arrivé ce qui devait arriver. À l'époque, vous saviez, on avait des disques durs de 80 gigas, c'était énorme, et oui, maintenant on a des cartes SD de 64 gigas pour même pas 10 balles, et ben à l'époque, voilà, fallait banquer sévère, je crois, je sais plus combien on avait foutu dans ce putain de disque dur, mais je me rappelle, on avait douillé, parce qu'en fait, le disque dur, je crois qu'à l'époque même, on avait même 40, on était passé à 80, parce que c'était un peu kiff-kiff au niveau des prix, mais voilà, le premier disque dur avait planté, et... dessus, il y avait ma DCD sauvegarde de Grandia 2, que j'ai jamais pu finir ce putain de jeu, du coup, parce que j'en étais arrivé genre à 50 ou 60 heures, quoi, mais c'était colossal déjà à l'époque, et ouais, j'avais passé du temps. Bon, j'ai quand même passé beaucoup moins de temps que sur Age of Empires, parce que ça, c'était mon... j'en avais déjà parlé dans une autre émission. Ça, c'était mon gros dada. Je sais pas combien d'heures j'y ai passé sur ce jeu aussi, mais je l'ai explosé avec ça. J'ai dû passer 500 heures peut-être sur ce jeu, je pense. Je sais pas, moi, j'arrêtais pas. Et donc, Grandia 2, ouais, alors c'est resté un petit peu, voilà. Et j'ai toujours eu le secret espoir un jour de me lancer dans Grandia 1. Je sais pas, je recule un peu, c'est un petit peu, je sais pas. J'ai peur d'être déçu, alors que je pense que je serais pas déçu, mais bon, c'est mon ressenti. Donc, ce Grandia 1, il est sorti donc en 1997. Il est sorti, alors c'est encore mieux, il est sorti sur Saturn en premier. La Sega Saturn, magnifique console. Moi, j'adore la manette, je trouve que c'est, c'est une belle console. Ça me plaît. C'est une console qui m'a toujours parlé. Et après, il est sorti à posteriori sur PlayStation 1. Et après, nous avons eu donc Grandia 2, lui qui est sorti, à croire qu'il faisait le choix que des meilleures consoles. Et après, il est sorti sur la Sega Dreamcast, avant de finir sur PlayStation 2, et moi donc sur PC. Et pour ceux qui ne le savent pas, je le sais déjà depuis longtemps, mais c'est vrai qu'il y a un Grandia 3. C'est un petit peu comme Chrono Cross. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Chrono Cross ? Chrono Cross, c'est la suite de Chrono Trigger. Alors, c'est sorti sur Play, moins de gens en ont entendu parler. Autant le jeu est bien, alors il est quand même certes moins révolutionnaire et moins fantastique que notre ami Chrono Trigger, mais Chrono Cross est un jeu aussi que je dois faire, parce que j'ai envie de me relancer dans ce magnifique RPG japonais, où c'est aussi une composante forte aussi, c'est que vous savez, si je fais cette émission, c'est que j'adore la musique, et c'est vrai que dans les jeux vidéo japonais, particulièrement dans les jeux de rôle, où il faut quand même passer du temps, c'est des jeux, voilà, on y consacre quand même beaucoup de temps pour faire avancer une histoire. Eh ben, on a souvent ben voilà, cette part musicale quand même qui est importante, et c'est pour ça que j'apprécie vraiment faire ces jeux vidéo-là, parce que justement, au niveau de la musique, on se fout pas de ta gueule. C'est bien fait, moi je trouve que voilà, c'est vraiment de la musique narrative, voilà, vraiment pour raconter quelque chose. Donc, notre ami qui a composé ça, parce que je ne l'ai toujours pas dit en fait, c'est Hiroyuki Iwadare, et donc il a travaillé bien sur tous les sur tous nos jeux Grandia, il a même travaillé sur Grandia Extreme, qui est même un jeu dérivé de Grandia, Et en autre fait d'armes, il a aussi travaillé sur une série qui est très intéressante, elle aussi analysée sur les musiques aussi, c'est Phoenix Wright, et la série plus particulièrement des Ice Attorney. Et le dernier jeu aussi sur lequel il a travaillé, c'est parce que c'est un jeu, c'est Super Smash Bros tout simplement, parce qu'on fait appel à une myriade de compositeurs pour retoucher même des fois des morceaux d'autres. Je crois que c'est très rare qu'un compositeur ait le droit dans les Super Smash Bros de retoucher son propre morceau, je sais qu'ils l'ont fait pour Grant Kirkhope, qui est revenu pour le DLC de Banjo-Kazooie, qui a retouché lui-même sa propre bandson. Je crois que c'est l'un des rares à avoir fait ça là-dessus. Et c'est ça qui est cool. On découvre plein de trucs. Et c'est bon, moi, vraiment, ça me fait plaisir. On se laisse donc avec notre ultime morceau, Farewell to Sue. Et je vous dis bonne écoute et à très bientôt dans Up to 11. Ciao, ciao.